une question sur ce que vous venez de dire là. Toutes ces évaluations des sourates, c'est à chaque fois via l'ange Gabriel, que ce soit à Médine, à la Mecque, etc. Il n'y a que lui en fait, ou c'est autrement?
Alors, si on reste dans une réponse toute faite, etc., classique, avec tout le respect que j'ai pour vous, qu'on aurait fait à un enfant, etc., quand il pose la question, la réponse est oui. Le transmetteur passif est l'ange Gabriel qui vient dicter au prophète, à l'homme du prophète, des paroles, plus ou moins longues, quelques versets, une petite sourate. On a des sourates à 3 versets, on a des sourates à 286. Donc une partie de la sourate ou une sourate. Enfin, je n'en sais rien, je vous rapporte ce que dans la tradition dit. Alors, si on veut aller un peu plus dans les détails, les compagnons disent « il nous est arrivé ». Je me méfie de ce qu'on appelle les curricula, pluriel de curriculum, c'est-à-dire ce qui a été rapporté par des chroniqueurs un siècle et demi plus tard, parfois deux siècles plus tard, quand on a commencé à consigner par écrit, et bon, un tel nous a dit, etc. Mais donc, ce qui est dit dans ces ouvrages, il nous est arrivé de voir le prophète à un moment donné transpirer, presque se retirer. L'un d'eux dit il avait son genou sur le mien, parce qu'on était assis l'un à côté de l'autre, et je l'ai senti lourd sur mon genou. Ben, les hommes mélangent le merveilleux, l'irrationnel, l'extraordinaire, etc. Ils le mélangent dans l'histoire, et ça donne ce qu'on appelle la pensée magique. Alors, maintenant, je réponds directement à votre question. On part de l'idée que c'est la voix de l'ange Gabriel qui résonne. L'homme la retransmet quasi immédiatement, puisqu'il n'écrivait pas. Selon le dogme du prophète illettré, on n'en sait rien. Parfois certains disent lui-même a écrit des choses, a effacé certaines choses, notamment la charte Médine, puis il a écrit. Mais bon. Mais selon le dogme du prophète illettré, pour marquer davantage le fait qu'il ne parle pas de lui-même, surtout pour ce qui concerne le Coran, il le dicte par la suite à ses scribes et à ses compagnons. Et eux, soit ils retiennent par cœur, puisqu'on dit que les Arabes ont une prodigieuse mémoire, soit ils écrivent sur des feuillets, sur des tessons, sur des troncs de palmiers, sur des cuirs de vaches, sur des omoplates de chameaux. Mais la plupart retiennent par cœur. D'ailleurs, ils n'écrivaient pas, ils avaient des aides-mémoires avec ce qu'on appelle des carcasses consonantiques, puisqu'il n'y avait que des consonnes sans les points diacritiques. Or, le ba, le ta, le fa, le nun sont ce qu'on appelle des lettres homographes. C'est-à-dire, elles se ressemblent. Ce sont les points diacritiques qui les distinguent. Or, les points diacritiques sont venus beaucoup plus tard, ce qui donnera lieu à ce qu'on appelle, dans l'exégèse et l'interprétation et la philologie même, quand des débats entre exégètes et spécialistes. Et donc, oui, c'est toujours via l'ange Gabriel dans la version standard.
Deuxième question.
Oui, je vous en prie.
Je continue.
Non, je vous en prie.
S'il y avait une validation de la religion juive ou de la validité du message de Moïse et du Christ, quelle est la pourquoi est-ce que derrière ils deviennent les juifs et les chrétiens deviennent des infidèles?
Alors, vous avez tout à fait raison. Les juifs et les chrétiens avec un article lait qui essentialise et qui généralise. Ce sont les juifs de Médine et les chrétiens qui ont, les chrétiens, alors une réponse faite aux jacobites, une réponse faite aux nestoriens, etc. L'ennui, c'est que, c'est moi qui vous donne aussi mon exégèse, la rigueur intellectuelle et la probité me recommandent de vous dire ce que j'ai compris et ce que mon père Alors, lecteur de la Grande Mosquée de Paris nous a expliqué aussi. Il ne s'agit pas des chrétiens de maintenant, il ne s'agit pas des chrétiens du pape François ou de Mère Teresa. Ou vous imaginez un instant Mère Teresa qui va périr par le feu de l'enfer et Abou Bakr al-Baghdadi qui lui va jouir des délices paradisiaques. Mais ça n'a aucun sens. En revanche, vous avez, et ça c'est le drame de tout texte avec ses contradictions, des passages de type le verset 82 de la sourate 5 qui dit « Tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié, sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, parce qu'il y a parmi eux des moines et des prêtres dont le cœur ne souffle pas d'orgueil et dont les yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. » Ou et un passage du genre les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion, leur trace ou leur vision du monde. Parce que la milla en arabe, ce n'est pas nécessairement une religion. Bon, alors, de nos jours, quand on est fanatisé, quand on est aigri, quand on a un cœur dévoré par la haine, on fait une focalisation sur tu ne trouveras les juifs et les chrétiens satisfaits de toi que lorsque tu les suivras et l'autre ne le lira même pas, ce qui est étonnant, c'est même ça relève quelque part de la psychiatrie. Et puis vous avez des passages aussi, le verset 60 62 de la sourate 2 qui est certes ceux qui ont cru, on n'a pas encore dit musulmans, parce que croire, c'est faire croire en la mission prophétique. Ceux qui disent nous sommes chrétiens et ceux qui se judaïsent et les sabéens n'éprouveront nulle crainte ni tristesse. C'est ainsi, enfin, si on avait un peu plus de temps, on serait rentré un peu dans les détails. Il y a des passages très amènes, très dithyrambiques pour les juifs et les chrétiens, et il y en a d'autres. Alors l'exégèse qui veut sauver l'affaire dit il s'agit effectivement des juifs de Médine et des chrétiens de la Mecque, parce qu'il y en avait plus à la Mecque qu'à Médine, et non pas, ça n'a pas une valeur universelle à travers l'espace et le temps. Je vous en prie.
Justement, sur ces contradictions apparentes entre des paroles mécoises très pacifiques et ben, qui sont plutôt dans l'ordonnancement du monde et certaines sourates de Médine qui sont beaucoup plus offensives. Hein, il me semblait qu'il y avait une tradition justement, alors l'exégèse, enfin des exégèses assez différentes, pour expliquer ces contradictions, et notamment, pour dire, entre guillemets, fidèle à se satisfaire d'une explication rationnelle, parce qu'il y en a certaines qui sont totalement contradictoires. Et notamment sur la relation avec les gens du livre, et puis, enfin, que, si on regarde chronologiquement, les idolâtres, tu en feras. Donc, c'est comment on peut travailler sur ce matériau sans avoir une vision chronologique. Parce que la présentation que vous pouvez présenter, ok, enfin, de la plus grande à peu près à la plus courte, sur les 114, mais il y a bien aussi une logique intellectuelle dans la révélation. Qui fait que pour s'y retrouver, on doit savoir à quel moment ça a été valide.
Ah, mais vous avez tout à fait raison.
Le problème, c'est que c'est la période, entre guillemets, la plus prosélyte, et c'est là où on est vraiment, d'ailleurs, légère, c'est pas le début de la révélation, c'est pas en 610, c'est au moment du départ de la Mecque. Donc c'est déjà après 13 ans d'action.
Bien. J'allais vous répondre d'une certaine façon et maintenant je répondrai autrement. Et avant, ce n'est pas que cette année que j'enseigne à l'IHEMR et il n'y a aucune, même si vous n'y avez pas pensé, mais je tiens à le dire, aucune approche apologétique dans ce que je raconte pour la tradition religieuse islamique. J'essaie de donner les faits tels que je les perçois avec mes mots et ma façon. Je ne plaide pas la cause ni de l'islam, ni quoi que ce soit. J'essaie d'être le plus neutre et le plus objectif possible, même si de fait il doit y avoir quelque chose de résiduel. Mais la question n'est pas là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne plaide pas la cause de cette tradition religieuse. Deuxièmement, vous avez raison, la présentation telle que nous l'avons est déroutante. Quelqu'un comme Voltaire dit que c'est une rhapsodie sans ordre, ni art, ni liaison. On n'y comprend rien. Et on ne va pas lire le Coran du chapitre 1, chapitre 11 de la première soif à la dernière. On ne comprendra rien. Alors il se trouve que ceux qui s'y intéressent, musulmans ou non-musulmans, les orientalistes ou l'islamologie savante, reclassent le Coran dans le sens chronologique. La première sourate, l'actuelle 96, deviendra la 1. Et l'actuelle 5 deviendra la dernière. La 2 fait partie des dernières, la 9 fait partie des dernières, etc. Bien. Donc, ceux qui s'y intéressent, ceux qui veulent prendre les 6236 versets coraniques dans l'ordre chronologique, pourront. Et il y a des Corans dans l'ordre chronologique. Ils ne sont pas l'objet de culte ou d'adoration ou de prière, parce que celui qui est objet de culte, d'adoration, etc., c'est celui que nous avons, que nous trouvons, je crois qu'il en a, il en a pas un ici, etc. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, c'est vrai qu'on a cette idée que les 13 premières années de la prédication mohammedienne à la Mecque étaient plutôt des paroles pacifiques, extraordinaires, empreintes d'humanité, etc. Et que lorsque Mohammed est devenu un homme fort à Médine, et il dit les idolâtres, tu les mettras en pièces. Je peux vous assurer que je n'ai lu nulle part que les idolâtres, il faudrait les mettre en pièce. Il est peut-être dit qu'il faudrait tuer les mécréants ou quelque chose comme ça. Oui, je peux même vous dire, je les ai en tête. Par exemple, un passage qui, in extenso, de la sourate 9, une des sourates, si ce n'est la sourate la plus dure et la plus problématique, et qui tourmente beaucoup de musulmans de nos jours, dit. Et lorsque les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été pourchassés injustement de leur demeure de combattre les mécréants, combattez-les où que vous les trouviez jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. S'ils te demandent asile, accorde-le leur afin d'écouter la récitation de la parole de Dieu. S'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle. Ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Alors, on a des individus qui vont mettre un point là où il y a une virgule. Et puis, ils ne commencent même pas dès le début. Ils ne vont pas parler des 4 mois sacrés, parce qu'il se trouve que dans la péninsule arabique, le code d'honneur des Arabes païens, c'est qu'on ne se livrait jamais bataille, on ne se livrait pas à la guerre pendant 4 mois, les fameux 4 mois sacrés. Parce que c'est un code d'honneur. Sinon, c'est comme on vivait de razzia et le plus fort fait ce qu'il veut du plus faible, il y avait les 4 mois dits de trêve ou les mois sacrés. Mais il se trouve que beaucoup, alors ceux qui n'y croient pas, c'est leur affaire, et ceux qui y croient aussi, c'est leur affaire, pensent que le Coran, ou Mohammed, c'est un homme qui dit qu'il ne sait pas lire ni écrire, mais en réalité, il sait lire et écrire, ou il a même un petit conseil, à islamiser ou coraniser des coutumes arabes, y compris l'histoire des 4 mois sacrés. Donc le passage dit, lorsque les 4 mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été injustement chassés de leur demeure de combattre les mécréants. En réalité, de quoi s'agit-il? Parce qu'il faudrait tout texte, quel qu'il soit, martial, belligène, violent, ou amen et merveilleux, etc., le relativiser à son contexte et étudier ce qu'on appelle les circonstances de la révélation. On rapporte, on est en 624, au mois de mars, plus exactement, moi, je ne suis pas sûr, le 23 mars, le 24 mars, le 624, qu'on a appris qu'une caravane des polythéistes de Quraysh venait, elle frôlait en quelque sorte Médine. Et les hommes sont les hommes, avec leur faiblesse d'homme, tout ce qu'on veut. Et on a pensé, est-ce que c'est bien de la raisonner ou pas? C'est celle des Mécois. Ils nous ont chassés, ils nous ont martyrisés, nous ont battus, nous ont mis sous embargo, on en dit de nos jours. Est-ce qu'il faut l'apprendre? Je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient merveilleux, les Médinois ou les primo-musulmans. J'essaie de vous rapporter le fait historiographique. Et on serait, j'utilise le conditionnel avec beaucoup de prudence, on serait venu voir le prophète pour lui dire qu'est-ce qu'on en fait. Alors là, vous avez tout à fait raison de poser la question éminemment théologique, mais qu'est-ce que c'est que cette révélation qui descend à point nommé aussi? Ça n'est pas sans interpeller de nos jours. Eh bien, le prophète n'a pas su répondre. On n'y touche pas. Et effectivement, le quatrième mois sacré s'apprêtait à expirer. Étonnamment, bon, je veux bien admettre qu'il y avait là une opportunité de se saisir d'un butin, étonnamment, curieusement ou paradoxalement, il y avait cette révélation qui est « Et lorsque les mois sacrés auront expiré, il est autorisé à ceux qui ont été injustement pourchassés de leur demeure de combattre les mécréants. Combattez-les où que vous les trouviez, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'aumône et qu'ils accomplissent la prière. » De nos jours, c'est un délit d'opinion et de conscience. Je ne vais pas battre quelqu'un ou le combattre jusqu'à ce qu'il s'acquitte de l'aumône. Mais malheureusement, ça y est. Alors, on ajoute, et s'ils te demandent asile, accorde-le-leur, ainsi ils entendront la parole de Dieu. Et s'ils s'inclinent à la paix, incline-toi vers elle, ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Bon, de nos jours, on met un point là où il y a une virgule, avec une identification morbide et indue. Ben, George Bush a injustement délogé de leur demeure les Irakiens. Il se trouve que lui, il a les arsenaux nucléaires, mais moi je n'en ai pas. Mais ma vie ici-bas n'a pas de sens à être vécue si elle vit dans l'humiliation et l'oppression. Il se trouve que je crois, parce que ceux qui disent que c'est du nihilisme, c'est pas du nihilisme, puisqu'ils croient à quelque chose de leur point de vue de meilleur et de durable et d'extraordinaire et de solide et de sûr, eh bien, j'y vais. En y allant, je créerai le chaos. C'est comme ça qu'on se prévaut d'un passage et on sacralise la violence. Donc tout le défi de nos jours, de la pensée théologique islamique, c'est comment désacraliser la violence. Voilà.
Vous avez parlé des débats, notamment sur les hadiths qui sont en cours de tirance. Comment vous voyez les débats sur cette adaptation, non pas que de la violence d'ailleurs, de la contemporanéité du Coran essentiellement?
Alors je vous donne mon avis, parce qu'il y a plusieurs courants, plusieurs. Si nous avions du temps, nous aurions passé en revue quelques idées par-ci par-là. Le mien, humble et petit, c'est que si on veut rester dans un cadre de foi, de croyance, de soif inextinguible, de spiritualité, de relation à Dieu, etc., et de s'immerger, comme disent les mystiques, dans la parole de Dieu, de s'en nourrir, d'en être édifié, etc., ce qui est de très beaux passages. Je ne dis pas qu'il ne faut pas extraire hors contexte tel ou tel passage, et je vais faire la même chose, donc je le fais par un but méthodologique. Le verset 34 de la sourate 41 qui dit « Et quelle meilleure parole que de se remettre à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair, rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui siège d'une grâce infinie. Fin de citation. Et ce n'est pas un passage de la période mécoise, c'est aussi c'est un passage de la période médinoise. Et donc, ça peut nourrir quelqu'un dans sa vie de tous les jours de se maîtriser, de goûter à ce que les Grecs appellent l'ataraxie, l'absence de troubles intérieurs, etc. Donc, de ce point de vue-là, faire de la révélation un texte ou un discours, parce que c'est aussi un discours, pourvoyeur de sens, d'éthique, de spiritualité, et que la partie normative vient de la considérer simplement comme une jurisprudence à un moment donné de l'histoire, accompagnant une mutation de peuples qui vont aller de l'état tribal à une sorte de confédération un peu plus élaborée qui transcende les clivages claniques, tribaux, ethniques, etc. Cette mutation-là a besoin d'être accompagné, d'être balisé, d'avoir des garde-fous de type législatif. Alors, si on déjuridicise la révélation et laisser de nos jours la production de la norme juridique comme une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes, pour le bien des hommes, de ce point de vue-là, on ne sera plus dans le fixisme de type « Ah, mais on continue à donner à la femme la moitié de l'héritage parce que le mari est tenu religieusement de subvenir aux besoins de la famille et la fille, dans sa part d'héritage, jouit de l'autonomie financière. » C'était valable au 7e siècle, ça ne l'est plus de nos jours. Je cite uniquement cet exemple. Il y en aura d'autres. Voilà, entre autres, les débats, et puis bien entendu, aussi étonnant que ça puisse l'être, il n'y a pas une injonction ou une doctrine politique de gouvernement, de gouverner selon le désir de Dieu. Ça n'y est pas dans le Coran. Il y a une absence. Il n'y a pas l'équivalent non plus du denier de César. La boutade classique veut, mais pourquoi voudrait-on parler de César en arabe au 7e siècle? Mais en tout cas, il n'y a pas l'équivalent du denier de César. Donc là aussi, l'escroquerie morale et intellectuelle, c'est de dire, de jouer sur un mot qui est jugé arbitré, et ceux qui ne jugent pas ou qui n'arbitrent pas selon ce que Dieu a prescrit sont les mécréants, datent de nos jours dans l'islamisme politique. Le passage arbitré ou jugé a été traduit par gouverner. Et on l'a imposé. Alors, on passe pour ayant scruté la volonté de Dieu et ayant compris le désir politique de Dieu, et on impose à ses semblables de la manière la plus archaïque qui soit. Ça veut dire que le monde islamique est en crise maintenant. Alors que, aussi étonnant que ça puisse l'être, il y avait une longue tradition du miroir des princes et on a gouverné selon la tradition des miroirs des princes que selon le désir de Dieu. Et cette littérature existe. Elle commence à être exhumée maintenant. Voilà, enfin, il y aura beaucoup de choses à dire selon le Coran, bien entendu. Alors, il y a ceux qui font l'ijtihad, terme arabe de la même racine que djihad, qui veut dire effort dans un cas intellectuel, mental, cérébral, et dans l'autre un effort physique, voire un effort intérieur. Eh bien, cet effort, d'aucuns disent, oui, il ne s'agit pas vraiment de couper la main du voleur, parce que le terme arabe, c'est couper et non pas amputer. Et la preuve, c'est qu'il y a un autre passage où les femmes subjuguées par la beauté de Joseph se sont faites des entailles en se coupant la main. C'est le même verbe, l'histoire de la pomme et tout. Et donc, comme c'est le même verbe, pourquoi on accepte dans un cas que les femmes se fassent des petites entailles et l'autre, le voleur, on doit l'amputer de la main. Non simplement, il faut lui faire une entaille. Ça sera une marque de l'infamie d'avoir volé, mais on lui sauve sa main. Ça, ce sont des ratiocinations où l'on essaye de sauver un système dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la rationalité fermée, pour dire, vous voyez bien, on fait de la réflexion qui ne soit pas barbare, mais non. C'est tout simplement, et ce n'est pas, il n'y a aucune jubilation blasphématoire à dire, il n'y a aucune raison de considérer les passages normatifs du Coran comme pourvoyeurs de normes juridiques.
Mais on est, enfin, moi j'entends bien ce que vous dites, mais on est quand même pas dans la vie de tous les jours, dans cette tendance-là, dans le quotidien de ce qu'on voit. C'est des hommes et des femmes qui se marient religieusement et qui refusent de se marier civilement parce qu'ils en violation de la loi. Ce sont des personnes qui se revendiquent justement de, bon, je ne vais pas citer les gens qui n'avaient pas d'être cités, mais d'une règle qui est strictement religieuse et qui refuse de reconnaître la norme. Alors, j'ai vu que vous aviez, je suis désolée, vous avez écrit la laïcité au regard du Coran et vous avez écrit l'être ouverte aux islamistes. Alors je suppose que l'un dans l'autre, ça doit se rendre, mais comment vous pouvez porter cette parole? C'est trop énorme, moi, je vous le demande, mais moi, mon quotidien, c'est des personnes qui violemment refusent toute injonction différente de ce petit extrait que eux, ils vont sortir du Coran. Et qui considèrent que ce qui pourrait leur être imposé par cette norme est tellement aberrant et insupportable qu'ils refusent même de discuter. Bien. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de discuter avec eux et de dire voilà, c'est comme ça, mais mon quotidien, c'est ça. Enfin, mon quotidien professionnel, c'est ça.
Oui, alors.
Et d'un autre côté, on doit aussi lutter contre, justement, moi je trouvais ça très intéressant que vous donniez le glossaire, contre des idées toutes faites sur certains termes qui sont mal utilisés, par exemple le terme djihad. Je vous donne juste un exemple de la semaine dernière, mais une personne, parce que moi je suis magistrat, une personne a été poursuivie parce qu'elle a dit une phrase, je ne sais pas trop quoi, djihad. Et ça a été poursuivi sur apologie du terrorisme. J'ai requis la relaxe en disant que djihad n'avait pas cette signification-là. Mais on est dans des pièges, à mon sens, qui sont extrêmement complexes à gérer.
Est-ce que je peux permettre de compléter
Je vous en prie.
Le vrai sujet, parce que moi, je fais fausse route, mais je pense que vous êtes un coraniste intelligent.
Merci.
C'est-à-dire que vous prenez l'objet, l'objet de la foi, son origine, son contexte, mais il y a le Coran, tout le Coran, il y a les hadiths, les témoignages des 100, 150, 200 ans qui ont suivi, mais il y a toute la jurisprudence islamique. Enfin, les plus vieilles universités du monde, c'est des universités qui se sont développées autour du travail juridique, autour du Coran et des Hadiths. Que ce soit Al-Azhar, que ce soit Cordoue, Tunis, c'est quand même des universités qui, encore aujourd'hui, je pense, au Caire, sont structurées et ont une autorité morale extrêmement importante dans la vie quotidienne au XXIe siècle. De beaucoup, de millions de musulmans.
La question, c'est d'où ? Va en Thaïlande, va voir les millions de Thaïlandais, ils ne se posent pas la question du roi de Thaïlande qui vénère. Mais moi, j'y étais pendant le deuil thaïlandais. Tous les musulmans thaïlandais, ils commencent à être de plus en plus nombreux, sincères. Après, il y a aussi, par rapport à la question que vous posez, de mon point de vue, puis je vous laisse répondre, le prisme. Le prisme de l'interlocuteur, et j'allais dire, Français moyen qui connaît rien. Moi, je suis aussi un Français moyen, sauf que vu mes origines, j'y connais un peu plus et tout. Hein. Et encore, j'ai découvert des tas de trucs en moins d'une heure que j'aurais dû peut-être apprendre pendant 45 ans. Et des fois, je pose, moi, parce que souvent comme ça, si c'était des Mormons, d'accord, le polythéisme, le mariage avec des gamines de 15 ans, ok, si c'était des Mormons, est-ce qu'il y aurait. J'espère qu'il y aurait cette même virulence, parce que moi, je serais aussi virulent. Par contre, est-ce qu'il y aurait. Je ne pense pas qu'il y aurait cette même distanciation, ce même rejet immédiat du global. Parce qu'il y a ce prisme. Donc, à la fois, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a une vraie question d'une partie de la population. Et le problème, c'est d'une partie d'une minorité de la population. Et à la fois, il y a aussi ce prisme de l'autre côté. Qui vient d'un seul coup. Qui fait que le prisme est forcément. Tu le disais sur la traduction des termes, c'est simple. C'est même pas. On sait pas, on cherche même pas à savoir. C'est-à-dire on part du principe que c'est comme ça. On a absorbé comme vérité la vérité des minorités. C'est quand même.
Les deux sont en dialectique. On va laisser Galès répondre.
Et votre discours, en dehors d'ici, moi je ne l'ai jamais entendu. Enfin, je ne suis pas non plus spécialiste, mais.
Bien. J'essaie d'être dans ma vie un homme qui privilégie l'écoute jusqu'au bout. Je n'interromps jamais mes interlocuteurs, à fortiori mes interlocutrices. Je ne fais pas de sexisme en creux.
À fortiori, ça c'était déjà sexiste.
Voilà, c'est une discrimination
positive.
Parce que, hélas, j'ai toute une éducation qui est peut-être fausse. Mais qui est d'écouter et écouter davantage les dames. Et, oui, c'est pour ça que de la fortiori est due à mon éducation.
Félicitations, mère.
J'ai gagné ma soirée puisque je tiens un discours intelligent, on sait très bien. Deuxièmement, vous avez raison, les plus vieilles universités au monde, encore en exercice, sont des universités musulmanes. La toute première, c'est celle de Fès, la pyramide, fondée par une femme. Et puis celle de Cordoue n'a pas survécu, celle d'Al-Azhar en 1969, il y en a d'autres comme pour les chiites, etc. Avant bien celle de Bologne et avant celle du collège de Robert de Sorbonne, la faculté des arts de Paris. Bien. Maintenant, le Coran, je réponds à vous. Nous sommes dans un État républicain, laïque, et force est la loi. Et on applique la loi. La justice sera rendue, je le dis sous votre contrôle, et le droit doit être dit. Aucun citoyen ne doit se soustraire, ne se prévaut pas de sa propre turpitude. C'est ainsi. S'appeler à une catégorie de nos compatriotes et de nos concitoyens, c'est très bien, ça ne leur plaît pas, on applique la loi. Entre-temps, il y a un énorme travail de propédeutique, de pédagogie, de prise en charge, bien entendu. Cela, me semble-t-il, en trouver dans l'islamisme politique, dans le salafisme, dans le wahhabisme, personne ici ou ailleurs ne sait que le propre frère de Mohammed Abdelwahab a écrit un ouvrage fustigeant la doctrine de son frère. Mohammed Ibn Abdelwahab est né en 1703, mort en 1792. Sa vision du monde, si je devais parler allemand, je dirais sa Weltanschauung. Je parle ainsi parce que je pense à Kant, qui est son contemporain, à 21 ans près. L'un nous produit un livre sur l'unicité de Dieu, d'accord, mais comment aller à la mosquée, comment accomplir la prière, comment faire ses ablutions, le livre des péchés majeurs, que sais-je encore. L'autre nous écrit la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. Ça vous donne l'un et l'autre à quoi ça va mener. Son propre frère, qui lui a survécu une année, donc il est mort en 1793, qui s'appelle Souleyman Abdelwahab, l'autre c'est Mohammed Ibn Abdelwahab, a écrit un livre intitulé les foudres divines réfutant le wahhabisme. Il se trouve pour X raisons, cette doctrine-là a prospéré au regard de quelques concours de circonstances, etc. Plus l'islamisme politique de Hassan al-Banna, plus la révolution de Khomeini, plus des raisons extrinsèques, plus des facteurs endogènes, etc. Le tout nous a donné la crise dans laquelle nous nous trouvons. Dans notre pays, eh bien, il revient à ma mémoire une fameuse marche, qu'il ne faut surtout pas appeler la marche des beurs, mais la marche pour l'égalité, du 15 octobre au 3 décembre 1983, ça nous fait 34 ans maintenant, et les mots d'ordre à ce moment-là, bien que le triptyque républicain soit une réalité pour tous les enfants de la République. Ça me rappelle la toile d'Honoré Daumier quand il a concouru pour l'allégorie de la République. Il a fait une belle femme plantureuse qui nourrissait deux bébés, deux nourrissons, et un enfant qui lisait à ses pieds. Et la légende était « La République nourrit et instruit tous ses enfants ». Eh bien, il se trouve que, je ne suis pas ni dans l'excuse, ni dans le misérabilisme, je suis simplement dans la strate sociologisante, parce qu'il y a d'autres explications aussi qui viennent interférer. Les marcheurs, une fois arrivés à Paris, ont été blackboulés. Ce qu'on leur avait donné, c'était, pardon, avec beaucoup de respect, je dis ça, une écurie pour députés européens, tout simplement. Et leur prise en charge sociale, morale, d'instruction, d'éducation n'a pas été assurée comme il faut. Aujourd'hui même, le président de la République a fait le lien avec ce qu'on appelle maintenant la radicalisation, et on se retrouve avec la génération de Khaled Kelkal, la génération de Zacharias Moussavi, la génération, je ne parle pas des émeutes de 2005, puisqu'on les a confessionnalisés qu'après coup. Avant, elles ne l'étaient pas, c'était à cause de l'OIF d'ailleurs, et puis, par antonomase, comme disent les grammairiens, les Kouachi et les Koulibaly. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'ils étaient laissés comme des proies faciles à des sermonnaires doctrinaires, à des manipulateurs, à des idéologues qui pensaient entrer dans un ventre mou chez nous, dans notre nation. Laquelle nation n'a pas cédé? Elle est résiliente, elle est traumatisée, elle est convalescente. Et pas plus tard qu'hier, nous avons commémoré encore l'abjection. En tout cas, on a pris dans les bras, comme selon la formule, nos concitoyens victimes. Encore traumatisé, eh bien, ça a été fait parce que malheureusement, il y avait une jeunesse qui était une proie facile à la salafisation des esprits. Et donc, il y a un énorme travail. Les antidotes à tout cela sont éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, inclination pour les valeurs esthétiques. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski. Et un aphorisme du prophète, authentique ou apocryphe, le débat n'est pas là. Dieu est beau, il aime la beauté. S'il connaissait l'importance de la musicothérapie chez Al-Farabi, 872-950, on n'aurait pas dit que, on n'écoute pas la musique. Donc, c'est l'indigence intellectuelle, la déshérence culturelle, cette situation de désarroi, de rupture, aussi explique pourquoi, et en plus, vous avez des musulmans, mais ils sortent le marché des Hurlings à Deauville et le marché des Pouliches à Longchamp, et on ne dit pas de cela qu'ils sont des islamo-délinquants. Et donc, toutes ces incohérences qui font que la frange islamique de la nation, je ne parle pas de communauté, je ne parle pas des musulmans de France, je parle de la frange islamique de la nation. Je pense que nous y allons, parce que je reste foncièrement optimiste, eh bien, à ce que, en dépit de la tragédie, ben, les choses, petit à petit, rentreront dans l'ordre pour que le primat du droit soit là pour tout le monde. Vous savez, les Albanais, sous Enver Hoxha, était sous une dictature athée. L'athéisme était d'État. Ça n'a pas empêché les musulmans, en dépit de ce qu'ils subissaient, d'être musulmans sous cette dictature. Et après la dictature athée, se retrouver des musulmans normaux, si je puis dire, dans l'Union soviétique aussi, dans le Tatarstan. C'est-à-dire que l'ethnicisation en confessionnalisant ne doit pas avoir, effectivement, je ne dis pas pour vous, j'ai beaucoup de déférence pour vous pour le dire, c'est que ne doit pas faire en sorte que l'élément islamique est aussi un problème de un problème social, un problème c'est devenu aussi un problème d'identité. Notre identité française, pas nationale, elle est française, elle repose sur une roche mère dont nous nous réjouissons tous, chrétienne, et elle a connu à travers le temps une sédimentation avec d'autres apports. L'apport juif, avec Rachi, le champenois, et Ibn Tibbon, les astronomes. L'apport islamique, on l'oublie, avec Raymond VI, avec la toponymie des lieux, Ramatuel, et que correction de Rahmatullah, miséricorde de Dieu. Perpignan, Béal-Bounien, le puits de l'urbanisme, Carcassonne, Narbonne, Arbona, le massif des morts. Et puis, petit à petit, les choses sont venues comme ça, ça se construit. Il y a une histoire qu'il ne faut pas voir d'une manière fielleuse ou mielleuse selon, mais comme une archéologie du temps présent et comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et de pensée, et avec une vision panoptique et non pas linéaire. Enfin, tout ça, voilà, me semble-t-il, la vision programmatique pour que nous sortions de l'ornière. Je vous donne que quelques idées forces, parce que tout cela mérite à la fois d'être étayé par des arguments, des thèses, etc.
Oui. Est-ce qu'il y a une Oumma musulmane en fait en France? C'est la question qu'on me pose, parce qu'il y a coexistence de plein de cultures différentes. Et il me semble que dans un certain nombre de familles musulmanes que je peux voir, la culture musulmane est plus importante que la foi musulmane. Comment vous dire, les traditions culturelles, etc. Et j'ai vraiment le sentiment que, si vous voulez, quand je vous entendais dire qu'il fallait reconnaître la part de la pauvreté, de la marginalisation, etc., on a le sentiment aussi, on aurait l'envie de voir de la part de ces communautés musulmanes le désir de se lever eux-mêmes. Je ne sais pas où on en est avec le mouvement musulman de France, je ne sais plus comment il s'appelle.
Le Conseil français.
Voilà. Est-ce qu'il y a des avancées de ce côté-là? Je ne sens pas une communauté spirituelle. Vous voyez, ça n'est pas du tout uniforme. Voilà.
Alors, il y a deux choses. Là aussi, je crois que nous devons partir, mais il y a deux choses. Il y a en théorie, je prends à visée pédagogique l'exemple chrétien, notamment catholique, parce qu'il y a une église bien structurée. Il y a ce que j'appellerais une double allégeance, une allégeance morale et spirituelle, politique et sociale. Si je prends un de mes concitoyens chrétiens, romains, catholiques, il a une allégeance à la nation qui est politique et sociale, et il a une allégeance à l'Église en reconnaissant le souverain pontife sur le plan moral et spirituel. Et ça ne se vit pas avec schizophrénie, etc. Ça se vit d'une manière harmonieuse et à l'aise, et même admirable. Et à titre personnel, je suis respectueux.
Il n'y a plus beaucoup ça. Bon. Non, mais je pense que cette harmonie vient aussi du fait que c'est assez cohérent, parce que c'est assez... Les deux se rejoignent sur plein de points, il n'y a pas de contradiction.
Oui.
Fondamentale.
Oui, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe.
Même si elles croissent.
Oui. toujours en théorie, il y, il y a ou il y aurait la même chose. Il devrait y avoir, il doit y avoir, sans le conditionner, une allégeance à la nation. Les musulmans de France n'en ont pas d'autre. C'est celle-là. Donc elle est politique et sociale. Ils font partie de cette nation, partie intégrante. Le soldat inconnu a 8 chances sur 10 d'être de confession islamique quand on revoit le protocole qui a présidé à la désignation du soldat inconnu, du bataillon dans lequel il se trouvait, etc. C'est le jeu de probabilité uniquement. Donc ça remonte pour certains à Verdun, ça remonte même au Turcos, ça remonte au 19e siècle. Pour d'autres, c'est assez récent. Donc l'élément islamique n'est pas si halogène ou intrus ou incongru que certains veulent bien le dire. C'est une allégeance à la nation sur le plan social et politique. Et il y aurait une sorte d'allégeance à la Oumma, mais pas parce que c'est l'Algérie ou le Maroc ou que sais-je, ce qui peut aller depuis l'Indonésie jusqu'au Suriname. Nous, on oublie les musulmans du Suriname. Et le Suriname est un pays, j'allais dire aussi musulman, faisant partie de l'OCI. Bon, mais en France, et vous avez tout à fait raison, je vais être sévère et je le crois, Xavier m'a entendu plusieurs fois le dire et je le dirai, c'est que les hiérarques musulmans dans notre pays sont frileux, sont pusillanimes, sont incompétents. Pour certains d'entre eux, en poussant le bouchon loin, leur horizon suprême, c'est d'être invité à la garden party et de l'Élysée quand elle existait. C'est-à-dire que l'horizon suprême n'est pas faire en sorte d'entrer dans l'histoire pour harmoniser les choses. C'est malheureusement le cas. C'est aussi peut-être compréhensible, donc il faut attendre peut-être qu'une génération ou deux passe aussi. Le contexte n'est pas aussi simple que ça. J'allais dire le cas sévère, mais je le pense fondamentalement. Donc, alors, vous parlez plus de culture que de questions proprement religieuses. Oui, il y a certaines traditions imputées à tort à la tradition religieuse islamique, alors qu'il se trouve être des coutumes qui subsahariennes, qui maghrébines, qui de la Haute-Égypte, etc., ou turcs d'Anatolie, et qui n'ont absolument rien à voir avec les textes canoniques, etc., y compris le Mouloud, le Maoulid, le Mouloud, là, à l'essence. Vous pensez qu'à un moment donné, le prophète a dit « Je mourrai, et qu'après moi, vous allez fêter ma naissance ?» Il ne l'a jamais dit. Ça n'est venu que sous les Fatimides, en copiant le modèle chrétien, parce qu'ils ont trouvé que Noël, etc., c'était bien. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec la naissance du prophète et avec, j'allais dire, des festivités de la nativité? Et c'est venu comme ça. Certains puristes ne célèbrent pas le Mouloud parce que ça serait une innovation, et comme toutes les innovations seraient blâmables et que ce qui est blâmable pousserait son acteur ou son auteur en enfer, donc on ne le fait pas. Mais vous avez vos voisins ou d'autres qui, le jour du Mouloud, vous avez les lumières, les bougies, les chansons, etc. Ben, ça, ce n'est pas religieux, c'est culturel. Et je peux vous en donner des tas d'exemples. Le phénomène du revoilement des filles, le phénomène de laisser la barbe et tout, ce sont des épiphénomènes qui nous empoisonnent la vie, certes, mais ce n'est pas l'essence de qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas l'enjeu de civilisation. Or, nous avons besoin d'enjeu pluriel de civilisation. Voilà. Oui,
on va... C'est important ce que vous avez.
Ouais, tout petit à leur pied, parce qu'on est... On va laisser la mer et on va... On va rentrer.
Non, je vous en prie.
C'est important ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que finalement la solution, ce ne serait pas dans l'organisation, finalement, j'ai envie de dire, de l'islam, enfin j'ai pas les bons mots. Vous sembliez dire que non, il n'y a pas d'organisation à proprement dite. On a eu des débats par exemple sur la formation des imams. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir pour le coup une structure qui serait reconnue avec des sachants qui fixeraient la doctrine en recontextualisant le Coran, en aidant à l'interprétation du Coran et en fixant la doctrine par rapport aux enjeux contemporains, et qui permettrait finalement, avec la formation des imams derrière, d'avoir une meilleure appropriation, une vérité dans l'interprétation du Coran.
Oui.
Ça, c'est une question de fond. Après, juste une réflexion que je mets, mais qui ne nécessite pas de réponse. cette réflexion, c'est de dire, mais finalement, dans les différentes religions monothéistes, on a les mêmes références, on croit au même Dieu, au même prophète, on a évoqué les anges. Comment c'est possible que, avec les mêmes interlocuteurs, j'ai envie de dire, on ait des interprétations aussi diverses et divergentes, finalement, ce qui crée des différentes religions à la même essence.
C'est pour ça que ça nécessite pas de réponse. Pour la seconde partie, vous verrez ça avec les successeurs. Là, ou une autre fois, je ne défausse jamais, je suis à votre disposition. Pour la première partie, soit vous prenez ce que je vous dis comme une pétition de foi, une profession de foi, soit... C'est la régression tragique qui nous a amené à ça. On oublie que Soliman le Magnifique était aussi un législateur et que sous Soliman le Magnifique, il y avait un droit de type séculier et qu'il ne s'embarrassait pas de charia ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il produisait aussi du droit. Ça, on l'oublie parce que bon, on n'y pense pas, on ne voit pas, on ne revisite pas l'histoire. Donc, de nos jours, oui, il faut des imams. La fondation de l'Islam de France, dont votre serviteur en fait partie, en se coltine le travail, on essaye d'en former, on donne des sous pour former des imams, Bac plus 5. On ne veut pas en faire des savantissimes, mais pourquoi pas un jour ils pourraient entrer dans la sous la coupole. Ce n'est pas réservé à un monseigneur d'Agen, ce monseigneur Mustigé. Ça peut être ouvert aussi à des imams. C'est ça l'idée de faire un imam qui n'est pas qu'un simple liturge. C'est aussi un savant, il peut l'être. Mais pour l'instant, on leur demande simplement de maîtriser le français, de dire des choses sensées, de présider à un office qui laisse place plus à de la spiritualité. À titre personnel, les gens ne sont pas obligés de partager mon point de vue. Je ne suis pas pour que le concordat perdure, mais dès lors qu'il est là, il faut qu'il en profite aussi à la formation des imams. On ne peut pas nous dire que la laïcité est une exception en France, que le concordat est une exception dans l'exception et que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Dès lors que les trois départements concordataires existent, qu'il y a des deniers publics qui forment des ministres du culte, ça doit aussi profiter pour l'instant à la formation d'imams là. Ils pourront essaimer par la suite. En attendant, pour l'instant, il y a ceux qui font des DU. Il y a quelques séminaires. Vous avez senti tout à l'heure que j'étais sévère contre les hiérarques musulmans. L'Institut Al-Razali, de mon point de vue, n'en forme pas bien. D'autres instituts qui étaient sous férule de l'UOIF, etc., Dieu seul, si je puis dire, sait qu'est-ce qu'on y forme. Est-ce que des imams à l'esprit gallican ou est-ce que des imams, même si c'est de bonne foi, mais avec des visions rétrogrades, des relations entre les êtres, sans ouverture à l'altérité confessionnelle. Vous savez, quand il y a eu l'histoire de Saint-Étienne du Rouvray, l'assassinat du père Jacques Hamel, il y a eu un appel à ce que les musulmans aillent dans les messes le dimanche d'après. Et j'ai entendu comme ça un jeune homme dire au gré d'un interview à la télévision, « Ah, c'est la première fois que je rentre dans une église. » Et je m'étais dit, voilà, on est entouré d'églises, certaines sont désaffectées, d'autres sont très belles, de très belles cathédrales avec de très beaux vitraux. Il n'a jamais eu la curiosité de sa vie d'y entrer, il a fallu un drame. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que les imams n'ont pas enseigné ou n'ont pas préparé à l'altérité confessionnelle. Et ça, c'est aussi important. Aussi, dans les familles. Donc, ce travail titanesque...
On entend aussi que la presse interdit ces gens-là.
Pardon ?
On entend aussi que la presse interdit ces gens-là. Voilà. On parlait d'altérité. Moi, j'ai répondu une fois à un message Facebook en postant la liste de prénoms musulmans, il y en avait 15. Il y a un mec qui a renvoyé une ordure, je dis oui, c'est la liste des soldats français morts pour la France en Afghanistan. Donc en luttant contre le terrorisme. Mais ceux-là, on n'en parle pas. Ceux-là, ils n'existent pas. Vigipirate, les mecs qui sont en Vigipirate, 40% de Guadeloupéens ou d'Africains, 40% de Maghrébins, les officiers sont blancs. Ouais. Non mais voilà. Et ceux-là, on n'en parle pas. Et donc à un moment donné,
Je suis d'accord, moi je suis magistrat parce qu'avec les gens que tu vois, ils sont encore plus durs que toi, je pense. Mais par contre, si tu veux être dur d'un côté, il faut l'être vraiment, il faut un donné de l'autre, et juste une normalité. Juste que moi je passe pas trois quarts d'heure au poste de police frontière à Roissy, alors je passe 4 minutes 30 à New York ou à Dallas. Mmh. Voilà, c'est tout. Excuse-moi.
Non, mais c'est.
Irlande.
J'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on appelle une cristallisation.
C'est normal.
Ça fait rien. Là, on a un peu fait une focalisation sur les aspects sociaux et politiques, mais les choses sont pourtant beaucoup plus complexes que ça. Il y a plusieurs approches et plusieurs. Une intrication de plusieurs facteurs.
C'est une question, mais j'en veux partir.
Je vous en prie.
Non, mais un non-musulman ou même un chevalement à la Fondation pour l'Islam, vous ne pouvez pas répondre. Rien que ça. C'est quoi comme message qu'ils envoient? Ils n'ont pas trouvé. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Comme j'entends tous les derniers de la diversité qui ont fait des super colloques. Et je leur dis, ok, c'est super, vous avez signé les chars. Dans vos quatre dirigeants, moi, je fais quatre dirigeants dans un grand groupe. Hein. Ils sont. Ah oui, mais on recrute des BAP, des CAP. Je dis, ouais, c'est de logique. À un moment donné.
Alors. Je remettais l'angle de bois et je l'ai dit avant, donc je le dirai après. Du point de vue de la symbolique, c'est vrai que nommer un non-musulman à la tête de la Fondation de l'Islam de France paraît quelque chose d'irrecevable. Le seul ennui, c'est que la fondation du protestantisme, la fondation du judaïsme, la fondation Notre-Dame, etc., était. Des trois que j'ai cités, une émanation des fidèles protestants, juifs et catholiques. Là, ce n'était pas malheureusement une émanation des fidèles musulmans. Il y en avait une qui existait et qui s'appelait la Fondation des œuvres de l'Islam. Elle est restée 11 ans sans avoir réuni le conseil d'administration et son président était là pendant 11 ans et n'a rien fiché. Je peux comprendre que du point de vue de la symbolique, c'est irrecevable, mais quand c'est une initiative de l'État laïque, dans ce cas, avec une dotation qui vient aussi de l'État, avec la présence de trois ministères, le ministère de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la Culture, etc., du coup, selon le vieil adage qui dit « celui qui rémunère l'orchestre choisit la musique », elle peut aussi choisir le chef d'orchestre. Bon, donc, la question...